Popol Talks, le podcast d'entretien de Popol Media, le média qui propose un regard féministe sur la politique. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popol Talks. Et pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une militante, et pas n'importe laquelle, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Anaïs Bourdet. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ben ça va bien, ça va très
ouais,
bien.
Ça va. Et toi? Tu es une militante, pas n'importe laquelle, parce que c'est vrai que pour beaucoup de militantes féministes et militants, tu es un visage connu, tu es aussi une marque connue avec Mauvaise Compagnie, mais aussi avec tous les travaux que tu as menés à travers d'autres formats comme Yes Podcast, Paye ta Schneck, etc. Bref, une vie de militante assez riche, disons.
Oui, assez riche, tellement que j'ai dû arrêter.
C'est vrai. Alors, je voulais pas aborder tout de suite ce point, mais libre à toi. Mais effectivement, ouais, tu as fait beaucoup de choses.
Ouais, c'est vrai que ça m'est un peu tombé dessus par hasard. En plus, j'ai pas fait exprès, mais oui, ça a été super intense. Enfin, j'ai l'habitude d'appeler ça une épopée, quoi, dans ma vie. Ça a un petit peu tout bouleversé. Et du coup... Voilà, c'était aussi passionnant que violent, mais c'est vraiment 10 ans de vie très très intense. Ouais.
10 ans parce que, si je ne dis pas de bêtises, Paye ta Schneck, tu l'as lancé il y a beaucoup d'années. D'ailleurs, tu as fermé le Tumblr.
Oui, c'est fermé. Je l'avais lancé en 2012.
Okay.
Et je l'ai fermé en 2019 ensuite.
Ouais, ok. Donc, quelques années. Sur ce Tumblr, qu'est-ce que tu faisais ?
Je publiais des témoignages de personnes qui ont été harcelées dans l'espace public, donc essentiellement des femmes, mais toute la diversité des profils qu'on peut avoir et qui font qu'on peut subir ce phénomène. Et du coup, voilà, au début, je me contentais de les publier, puis au fur et à mesure, tous ces témoignages m'ont appris beaucoup de choses, et du coup, j'ai commencé aussi à produire du discours et à accompagner les témoignages et à me mettre en colère aussi de plus en plus, parce que l'afflux de récits de violence m'a mise en colère, très en colère. Et donc voilà, par la suite, une fois que j'ai eu un discours que j'ai estimé commencer à être construit, j'ai voulu me diversifier aussi, notamment avec Yes Podcast, où là, l'idée cette fois, c'était de mettre en avant nos victoires contre le sexisme, parce que j'en pouvais plus d'avoir que des défaites, hein. et que je voulais valoriser les moments où on est sorti glorieuse et glorieux de moments de violence, et les fois où on a réussi à répliquer ou à punir, etc., et pour contrebalancer un petit peu et s'armer un peu mieux contre ces phénomènes.
Cet équilibre entre, disons, les défaites et les batailles que l'on a réussi à gagner, tu penses qu'il est facile à faire aujourd'hui quand on est militante féministe ?
Non, c'est vraiment pas facile à faire. C'est pour ça qu'on avait tenu avec mes deux... collègues à monter ce podcast, parce que quand on fait une veille sur ces sujets-là, en plus d'accueillir la parole des victimes, on a vite fait d'avoir que les mauvaises nouvelles en fait sous les yeux, et les victoires, en tout cas les victoires du quotidien, sont très peu valorisées. Donc non, il faut aller les chercher, il faut mettre de la lumière dessus aussi, parce qu'on a besoin d'espoir en fait. On a besoin de bonnes nouvelles aussi, sinon c'est juste pas tenable en termes de santé mentale. C'est impossible de tenir sur le long terme si on peut pas constater qu'il y a des moments où on s'en sort bien, et voir des moments où on est carrément glorieux et glorieuse, quoi. Donc moi je sais que c'était vraiment un besoin limite vital, quoi, de revaloriser ça, quoi.
Ouais, je suis d'accord. C'est un peu comme tout projet politique, en fait, et la nécessité de regarder au loin et de se dire que l'avenir n'est pas totalement foutu, qu'on peut potentiellement encore changer la donne et imaginer des choses plus positives. Depuis 2012, si tu dois faire une espèce de rétrospective et ou introspection de toutes ces années de de travail militant et d'engagement. Est-ce que tu as le sentiment que, en tout cas pour la question des droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, les choses se sont améliorées ou pas ?
C'est une question tellement difficile. En tout cas, sur le sujet sur lequel moi j'ai travaillé, le harcèlement dans l'espace public, je ne constate pas du tout d'amélioration. Objectivement, hein, y a toujours autant de personnes violentes et autant de personnes qui subissent ces violences. L'endroit, moi, où j'arrive à me rassurer, entre guillemets, c'est en regardant les personnes plus jeunes que moi, quoi. J'enseigne aussi, vu que je suis graphiste et j'enseigne le graphisme, et je constate clairement que les filles que j'ai en classe partent pas du tout du même endroit que moi à leur âge. Elles sont beaucoup plus renseignées, beaucoup plus combatives. Elles ont aussi acquis des libertés pour lesquelles on s'est battu. Et du coup, je les vois, elles, en tout cas, bénéficier de notre travail, même s'il reste encore plein de choses à faire, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment la chose qui me fait voir les progrès qu'on peut constater, mais après, à un niveau plus large, sociétal, politique, culturel, etc., il y a de plus en plus de femmes, de plus en plus de projets sains qui se créent, qui se rendent visibles, mais je trouve que de façon structurelle, les projets sont très minimes à l'échelle d'une vie, quoi. À l'échelle d'une société, on peut dire que ça va vite, mais à l'échelle d'une existence, par contre, c'est très très lent, quoi.
Ouais, et puis même d'un point de vue ne serait-ce que de politique publique, on voit bien que les mesures ou fausses mesures, je ne sais même plus comment les définir, du gouvernement et de Macron depuis que c'est la grande cause du quinquennat, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, on voit bien qu'en fait les violences ne reculent pas, que les féminicides ne reculent pas. Donc ça c'est quand même assez inquiétant. Moi je suis inquiète sur le plan politique aussi parce que le vent tourne et pas forcément dans le bon sens, en tout cas pas oui, celui que je souhaite. Est-ce que les nouvelles récentes, mais d'ailleurs en dehors de la France, hein, pas qu'en France, est-ce que t'as des nouvelles qui t'ont fait plaisir où tu t'es dit ah ça c'est cool, c'est une bonne chose?
Là tout de suite franchement j'en ai pas beaucoup, là tout le monde a
fait l'IVG dans la Constitution, qu'est-ce que t'en as pensé par exemple, ça t'a fait plaisir?
Personnellement ça m'a vraiment pas ému, je sais que c'est un moment qu'on peut qualifier d'historique, mais je sais aussi que c'est le mot liberté qui a été inscrit et pas le mot droit, que c'est le mot femme qui a été inscrit et pas le mot personne, enfin Je trouve qu'en fait, ce gouvernement est vraiment spécialiste des coups de com plus que des mesures réelles, en fait. Hein, ça sort en grande pompe, tous les médias en parlent, mais de façon effective, il se passe pas grand-chose. Et je trouve qu'en fait, on est complètement instrumentalisé par ce gouvernement depuis le début, hein, depuis qu'il a annoncé la grande cause du quinquennat sur son premier mandat. Ça n'a rien changé. Et du coup, le désespère, parce que parfois, je me dis, mais comment, en fait, qu'est-ce qui est encore possible avec un gouvernement pareil ? Je veux dire, parfois, ça me fait perdre espoir. Je sais que ça ne viendra pas du gouvernement, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Quoi.
Ouais, c'est ça, je suis assez d'accord. Et puis en plus, on n'est pas au bout de nos peines, puisqu'il nous reste encore quelques années à s'enfermer dans l'hypocrisie qui se, comme tu l'as très bien décrit, qui se concrétise à travers des opérations de com. Et où il y a l'absence de mesures concrètes. Je ne sais pas si tu partages ça, mais moi, je trouve qu'il y a eu une petite victoire quand même avec cette histoire d'IVG dans la Constitution. Alors, ce n'était pas la première fois que je voyais ça, mais cette fois-ci, je trouvais que c'était très fort. C'est qu'il y a eu quand même une certaine coopération, coordination de la part de nombreuses associations féministes qui ont su d'ailleurs à un certain moment dépasser des divergences pour travailler ensemble, et aussi des élus. Tu vois, je pense bien entendu à Mélanie Vogel, à Mathilde Panot, etc., qui ont quand même bien bossé sur ces questions. Et moi, ça m'a un peu émue quand même, de me dire, en fait, quand on s'y met, on peut y arriver. Alors oui, la formulation, je suis tout à fait d'accord avec toi, ne permettra pas d'avoir un recours effectif et égal sur l'ensemble du territoire, un accès, pardon, effectif et égal à l'IVG sur l'ensemble du territoire, comme ce qui était initialement proposé par Mathilde Panot et sa proposition de loi. Néanmoins, ce travail commun, je l'ai trouvé émouvant quand même.
Oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'effectivement, dans le registre des choses qui font plaisir à voir, il y a quand même une solidarité autour de nos sujets qui est sans précédent. Je pense notamment, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé le plateau de Mediapart avec Judith Godrèche, Charlotte Arnoux, etc. Tout ce plateau de femmes en colère, Anouk Grimbert, etc. Et j'ai vu une sororité qu'on a jusqu'alors rarement observée. Et ça, je pense que c'est de ça que viendra le changement de paradigme, en fait. C'est MeToo a initié ce genre de façon de faire ensemble. Et je pense que oui, par contre, on progresse sur le collectif. On progresse très fort et on est beaucoup plus solidaire et maintenant on laisse plus rien passer, on est plus exigeante, exigeant. Donc oui, je pense que par contre on fait mieux équipe qu'avant, ça c'est sûr.
Ouais, bah, par exemple, par rapport à 2012, il ressemblait à quoi le paysage féministe et militant en 2012?
Ben, alors déjà, j'en savais pas grand-chose hein, parce que j'étais pas très renseignée quand j'ai lancé Paytachnek, je savais même pas que c'était une démarche féministe ce projet. Je crois même qu'on doit pouvoir retrouver une ou deux interviews où je dis que je suis égalitariste.
Ah,
Donc,
on va
je pars
élaborer
de
ce
très loin.
concept.
Ah ouais, non, j'ai dit sacrée connerie en démarrage, d'où la nécessité de se renseigner après. Je me suis rendu compte qu'il y avait un gros creux dans mes propos. Moi, ce que je voyais à l'époque, bah, on nous renvoyait systématiquement soit aux femmes, soit aux ailes féminisme, qui étaient deux façons de militer dans lesquelles moi, je ne me reconnaissais pas. Du coup, c'est pour ça qu'au démarrage, j'ai eu du mal à me mettre l'étiquette féministe parce que j'identifiais de façon contemporaine que ces deux organisations-là et dans le passé que le MLF, quoi, en gros. Et j'avais du mal. Il y avait des choses, mais je savais même pas dire quoi. J'arrivais pas à m'identifier à ça. Et du coup, le féminisme intersectionnel, pro-choix, les féminismes inclusifs, hein, tous les mots qu'on veut mettre dessus, ça se passait sur des groupes fermés sur Facebook, en fait. Donc c'était pas aussi visible, pas médiatisé du tout. Mais c'est la rencontre avec ces groupes-là, moi, qui m'a autorisée à me dire féministe. Je me suis dit, si le féminisme s'occupe aussi du racisme, des LGBT-phobies, etc. Là, d'accord, là, je me sens OK avec le mot féminisme. Mais à l'époque, c'était pas du tout médiatisé, pas du tout diversifié. C'était vraiment, il n'y avait pas non plus même de féminisme de gouvernement, même si le féminisme de gouvernement aujourd'hui me pose problème. N'empêche qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, c'était beaucoup plus secret, entre guillemets. Enfin, moins visible, ça se faisait dans des petits groupes fermés, quoi.
Un peu plus underground.
Ouais.
C'est lequel le premier groupe que tu as rejoint sur Facebook qui t'a où tu t'es dit, OK, là, je suis bien à ma place.
Alors, il y avait un groupe qui s'appelait les Paupiettes de Coquines, qui était un groupe issu d'un autre qui s'appelait les Copines à la base. Et il y avait eu scission déjà suite à voilà, des décalages, des désaccords politiques dans ce groupe. Et donc, le groupe les Paupiettes de Coquines s'orientait plus voilà, vers des féminismes ben, voilà, qu'on peut appeler intersectionnels, pro-choix, etc. Et puis, il y a eu les féministes par inadvertance aussi, que j'aimais beaucoup, qui étaient vraiment pour le coup, en début de chaîne de déconstruction. Donc, ce groupe avait pour objectif de faire un démarrage pour les personnes qui commencent à se lancer, à s'intéresser à ces sujets-là. Donc, j'aimais bien cette idée qu'il y ait différents niveaux et qu'on puisse naviguer d'un groupe à l'autre selon où on en est dans notre déconstruction.
Donc du coup, en gros, disons que comment dire, ta culture féministe s'est faite notamment à travers Internet et les réseaux sociaux.
Ah mais complètement, complètement. C'est vraiment sur ces groupes Facebook-là que bah, beaucoup de personnes mettent à disposition du contenu. On partage et des bouquins et des références très diverses et il y a des débats, des discussions constantes. Et comme moi, avec Paytachnek, j'étais une oreille simplement au démarrage, je ne prenais pas la parole. Bah, j'ai fait pareil sur les groupes. J'ai pas du tout pris la parole pendant bien 2 ans. Par contre, j'ai tout lu. Mais de façon, j'ai eu l'impression d'ouvrir la boîte de Pandore. J'ai halluciné de découvrir le nombre de sujets que ça pouvait toucher et à quel point ça pouvait être passionnant de se renseigner sur tout ça et de mieux comprendre tout le monde qui m'entoure, quoi. Et du coup, c'est réellement les groupes Facebook qui ont fait mon éducation, quoi.
Et aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à Facebook?
J'y vais plus du tout.
Ouais, bah ouais. C'est ouf. C'est ouf. Globalement, du coup, parce que t'en parlais très brièvement tout à l'heure en introduction, t'as fait ce qu'on appelle un burn-out militant. Et ça aussi, c'était lié à Internet. Du coup, t'as quoi un rapport ambivalent à Internet, une sorte de je t'aime, mais pas trop. Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est amour-haine. Et puis à la fois, je reste quand même beaucoup sur les réseaux sociaux, mais j'ai tout divisé mes comptes sur Instagram. Je crois que j'ai 4 comptes différents pour le privé, les amis, mauvaise compagnie, le travail. Enfin, je divise vachement mes activités sur les réseaux pour me protéger. Parce que j'ai un rapport, même si j'adore les réseaux sociaux, que j'ai énormément envie, besoin de partager, que je me renseigne beaucoup là-dessus, j'ai un rapport très anxieux du fait du harcèlement que j'ai subi, mais pas seulement, hein, aussi du fait que y avait des milliers de victimes qui me contactaient un petit peu par tous les moyens possibles et imaginables, et que ça aussi, au bout d'un moment, je les fuis parce que j'y arrivais plus. Pendant des mois, parfois, je n'ouvrais plus ni mon ordi ni mon téléphone parce que j'y arrivais plus, quoi. C'était devenu beaucoup trop massif pour moi, quoi. Et donc, ouais, j'ai un rapport aujourd'hui apaisé parce que je me protège mieux et que les réseaux sociaux aussi ont développé des outils qui permettent de mieux se protéger, des outils qui n'existaient pas à l'époque où moi je modérais Paytachnek. Mais je continue d'avoir super peur et de savoir qu'à tout moment ça peut glisser et que je peux recevoir des menaces de mort, etc., très facilement, quoi.
Ouais, c'est clair. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, les réseaux sociaux ont évolué, notamment en termes de modération, d'outils de comment dire, de quand tu peux signaler quelqu'un. Pardon ?
C'est tous les paramètres de confidentialité qui ont évolué, en fait.
Aussi, exactement. Et du coup, quels sont effectivement les points positifs que tu as relevés ces dernières années sur l'évolution des règles sur les, notamment Instagram, Facebook, Twitter, etc. Et est-ce que tu as pu constater aussi une certaine forme de retour en arrière, je pense, là, à Twitter ?
Alors, Twitter, moi, j'ai arrêté Twitter il y a quelques années. J'ai fermé le compte, d'abord Paytachnek et ensuite Mauvaise Compagnie aussi. Parce que trop violent et impossible pour le coup de gérer, de se protéger, à moins de passer son compte en privé. J'ai trouvé que moi, qu'il n'y avait aucun moyen de se protéger sur ce réseau-là. Et je suis exclusivement sur Instagram parce que j'ai la possibilité de restreindre les commentaires aux seules personnes qui me suivent, que j'ai la possibilité de décider qui peut m'écrire ou non, m'envoyer des messages. J'ai beaucoup d'outils que je n'avais pas à l'époque de Facebook. Si je veux même qu'une publication ne soit pas du tout commentée, je restreins les commentaires et puis basta. Si j'ai juste envie de la publier et que j'ai pas envie d'avoir des opinions sur ce que j'ai publié, c'est possible. Alors, je sais que c'est pas ça qui rend mon compte plus viral. Du coup, Mauvaise Compagnie grossit vachement moins vite que Paytachnek parce que je restreins beaucoup mes paramètres. Mais du coup, j'ai une tranquillité d'esprit que j'avais jamais eue jusque-là, quoi. Et je n'ai quasiment jamais de troll, du coup, sur Mauvaise Compagnie. Parce que je verrouille tout et que du coup, on est vraiment juste avec ma communauté. Enfin, j'aime pas trop parler de ma communauté, mais il n'y a pas vraiment d'autres mots, les followers, quoi. Et du coup, on est
les
vraiment...
Fololo.
Les fololos. Les fololos. Au moins, on est tranquille, on peut discuter sans qu'il y ait tout d'un coup un facho qui débarque dans la discussion, quoi. Il faut qu'il fasse l'effort de s'abonner et en général, ils ne le font pas, quoi.
Tu disais aussi que... Il y avait des personnes qui t'écrivaient régulièrement pour partager avec toi les violences qu'elles ont pu subir. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Est-ce que tu es encore identifié comme quelqu'un qui recueille en fait des témoignages ?
Oui, encore, oui. Ouais. C'est beaucoup plus rare, hein, mais ça arrive encore. Et par contre, c'est très clair dans mon milieu personnel que par contre, c'est vrai que tout le monde me raconte tout. Et c'est à moi qu'on écrit quand il se passe quelque chose, quoi. Et donc, je suis complètement OK avec ça, quand c'est mes amis, mes copines, etc. Mais on m'écrit aussi parce que quelqu'un qu'on connaît, il lui est arrivé un truc. Et du coup, je suis régulièrement sollicité. Et il y a des moments où j'ai le recul nécessaire, où je vais bien et où j'arrive à bien gérer le truc. Et il y a des moments où vraiment, tout d'un coup, ça me fait des montées d'angoisse et je repars en arrière complètement. Parfois, il suffit d'un témoignage, même d'un fait pas hyper grave, pour que je disjoncte, quoi. Donc, je dois me protéger aussi dans mon cercle Dans ma vie privée, hors réseau, ça m'arrive aussi, quoi.
Est-ce qu'on peut guérir d'un burn-out comme tu l'as connu?
Franchement, d'un burn-out professionnel, je pense que en fait, il y a moyen d'arrêter le travail. Enfin, il y a moyen ou pas, hein, selon la situation dans laquelle on est. Sur le burn-out militant, le problème, c'est qu'on reste dans une société patriarcale. Donc, même si on arrête nos activités militantes.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Moi, c'est je continue d'avoir régulièrement des épisodes de harcèlement dans l'espace public. Donc, c'est régulièrement, mes traumas sont reconvoqués. Et du coup, honnêtement, moi, j'ai arrêté depuis 2019, donc ça va faire 5 ans en juin, et je suis encore loin de voir le bout du tunnel, quoi. Je sens que je suis encore à vif complètement et que je suis encore capable de péter un câble quand un mec me harcèle, soit de péter un câble en direct, soit de péter un câble plus tard, une fois que je suis chez moi. Mais dans tous les cas, ça m'abîme encore très fort, quoi. Je vois que je suis pas du tout désensibilisé, quoi.
Ouais, bien sûr. Et est-ce que tu penses, dans une certaine mesure, que cette sensation, cette colère qu'on peut avoir en nous quand ce sont des choses comme ça qui nous arrivent et qu'on est agressé et qu'on a besoin de l'exprimer, c'est quelque chose qui peut être potentiellement positif?
Oui, je pense qu'il y a plein de personnes qui arrivent à, et ça a été mon cas par moment, mais qui arrivent à transformer cette colère en quelque chose de super constructif. Je pense notamment à Rokhaya Diallo, qui est vraiment là-dessus. Pour moi, un modèle de transformation de la colère. Moi, j'ai vachement plus de mal. Bon, il y a le fait aussi, moi, je suis neuroatypique, donc les émotions, la gestion des émotions pour moi est compliquée de base. Donc, toute cette violence extraordinaire que j'ai eue en plus via Paita Schneck est parfaitement ingérable pour moi, et j'ai mis longtemps à m'en rendre compte. Je pense qu'on peut, que ça peut devenir quelque chose de beau. Je pense que tous les militants et militantes ont une part de colère, c'est obligatoire, hein. Si on lutte, c'est bien qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe autour de nous, mais c'est aussi qu'on croit qu'on peut mieux faire, qu'on croit profondément. C'est Chimamanda Ngozi qui disait qu'elle croyait profondément dans la nature perfectible de l'être humain et que c'est ça qui fait qu'elle continue. Et je suis assez d'accord, même si parfois, moi, je perds espoir. Je pense qu'on cette colère-là, tous les militants et militantes du monde en font quelque chose d'intéressant. Moi, la colère, je l'ai laissée me bouffer. J'ai mis trop de temps avant de la conscientiser, en fait.
Aujourd'hui, si tu pouvais donner un conseil à des militantes qui pourraient éventuellement se retrouver dans la situation que tu as connue, ce serait quoi?
Ce serait de cultiver très fort une vie hors militance, de vraiment miser sur les loisirs, les amis, la famille, je sais pas, n'importe quoi, le jardinage, la broderie, le dessin, mais en tout cas ne pas s'oublier dans les luttes. Pour moi, c'est vraiment ça l'erreur que j'ai faite, je pense, c'est que je me suis fait aspirer par tout ça, j'arrivais plus à déconnecter du tout de ces sujets-là. Et je pense que c'est là que je me suis encore plus abîmé que ça ne m'abîmait déjà, quoi.
Ouais, donc par exemple, ne pas faire ce que m'arrive de faire quand je vais me balader et que je vais courir, ne pas écouter des podcasts sur les VSS, par exemple. Mais écouter des
Par exemple.
podcasts sur les chatons, sur...
Voilà. Voilà. C'est pour ça que je divise tous mes comptes aussi. C'est que sur mon compte privé, je n'ai que des chatons, des gens qui se vautrent, et des trucs drôles, et des personnes qui font du jardinage. Voilà, je n'ai que ça. Mais voilà. Et depuis 2 ans, je ne lis plus de livres militants parce que j'ai envie de lire des romans, j'ai envie de lire de la poésie qui ne parle pas de ça. J'ai envie de retrouver ma légèreté, en fait. Et vraiment, je suis à la poursuite de ma légèreté. Je l'ai perdue sur la route. Et donc, je suis en train de faire un énorme demi-tour pour arriver à la retrouver.
J'avais encore quelques questions si tu le veux bien, si ça ne te dérange pas. Il y a une question que j'aime bien poser à mes invités sur ce podcast. C'est quoi ta définition du féminisme?
Ça aussi, c'est une question difficile. Plus ça va, plus j'ai de mal à définir le féminisme, tellement j'ai l'impression qu'il y a autant de féminisme que de féministes, finalement. Pour moi, c'est une lutte contre les oppressions, de manière générale, et une volonté très forte d'accéder à la dignité pour tout le monde. Et finalement, c'est la quête de la paix pour tout le monde. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment des bisounours et qu'on nous accuse à longueur de temps d'être des terroristes. Donc, tout ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse être en paix et vivre tranquille ou bilou. Et ça me semble pas hyper dangereux comme projet. Même si non, ça nécessite de tout cramer, l'objectif, il est mignon, quoi.
En soi, oui, il n'y a rien de flippant, quoi. En tout cas, pour nous, mais tu sais comme nous, que les tenants de l'ordre établi voient ça comme une menace.
Voilà. C'est pas leur intérêt.
C'est ça. Parlant de ça, est-ce que tu as le sentiment que la classe politique évolue dans un sens comme dans un autre, hein, que ce soit bien ou mauvais, vers la prise en compte, bon, on a parlé, je dis mauvais, je pense notamment au gouvernement qui fait de la com, hein, vers justement la prise en compte de cette lutte, de ces luttes contre l'oppression?
Non, vraiment, je trouve pas qu'on aille du tout dans le bon sens. Je trouve qu'en fait, ils se servent de tous les discours qu'on produit pour s'en faire des éléments de langage et des sujets sur lesquels sur lesquels ils surfent, on va dire, parce qu'ils prétendent les prendre à bras le corps. Non, j'ai l'impression qu'ils sont mieux armés pour mieux en parler, mais qu'ils sont, encore une fois, on sait très bien que c'est pas dans leur intérêt de réellement faire reculer ces problématiques. Donc moi j'ai longtemps cru qu'il fallait agiter les bonnes solutions sous les yeux des politiques, parce qu'en fait juste ils identifiaient mal le problème ou mal les solutions, et à force de rencontrer des ministres, des députés, des machins, et de me rendre compte qu'en fait tout le monde est très bien renseigné, mais que tout ce qu'ils veulent, c'est avoir la photo avec moi pour pouvoir dire qu'ils m'ont rencontré. J'ai totalement changé de stratégie, on va dire, parce que je me suis rendu compte qu'ils n'ont aucune intention de faire réellement évoluer les choses. Ils veulent continuer de pouvoir exploiter nos corps, que ce soit des corps de femmes ou des corps de personnes précaires ou des corps de personnes racisées, tout le monde, quoi. Ils veulent continuer de pouvoir nous exploiter pour mieux faire de bénéfices. Enfin, le Covid a été un révélateur extraordinaire, je trouve, à cet endroit-là. On a passé des soirées à applaudir les soignants, à applaudir tout le monde, à parler des éboueurs et des caissières et des machins. Pourquoi par la suite? Rien. Ils n'ont aucune intention de changer les choses, en fait. Ça, j'ai vraiment arrêté complètement d'y croire. Donc, non, ils sont juste mieux armés pour mieux en parler. Mais ils n'ont toujours pas envie d'y changer quoi que ce soit. Je pense que de toute façon, ça ne sert pas à leurs intérêts, encore une fois. Donc, ça ne viendra pas d'eux. Ça viendra forcément d'en bas, quoi.
Et du coup, tu disais qu'il fallait tout cramer tout à l'heure. Tout le monde sait que c'est un podcast fondamentalement insurrectionnel, donc personne ne sera surpris. Et on en assume la responsabilité totalement chez Paul de cette phrase, dans laquelle on se reconnaît quand même pas mal. Du coup, pour toi, tu disais précisément qu'il faut que ça vienne d'en bas, donc... On prend pas le pouvoir, en fait, on fait ça en dehors des institutions. Comment on s'organise?
C'est compliqué, parce que j'ai traversé différentes phases là-dessus où je me disais effectivement il faut abolir l'État, abolir toutes les institutions. Simplement, vu la violence des différents pouvoirs qu'on a en face, c'est un sacré chantier. Donc, faut savoir, en fait, est-ce qu'on a envie, voilà, de révolutionner complètement la société, ou est-ce qu'on a envie de composer en attendant la révolution? Et moi, j'en ai un peu marre d'attendre la révolution, en fait. Donc, je me dis que là, il faut prendre les institutions pour pouvoir les défoncer de l'intérieur, en fait, hein, et pouvoir repartir sur des bonnes bases. Moi, si je m'écoutais, je referais une page blanche, en fait, hein, et je mettrais tout le monde autour de la table, tout le monde sauf eux, sauf les personnes qui détiennent le pouvoir à l'heure actuelle, pour dire comment on bâtit maintenant avec tout ce qu'on sait. On sait qu'on est, le capitalisme est arrivé en bout de course. Comment on fait maintenant? Quel est le projet de société qu'on veut, et de quelles institutions on a réellement besoin? Et je récupérerai tout l'argent là qui est bloqué à l'heure actuelle dans des institutions qui bien souvent ne servent plus à rien ou servent à nous exploiter encore mieux. Mais bon, c'est un vaste projet. Et à chaque fois que je vois des mouvements de population, comme on a eu Nuit debout, puis les Gilets jaunes, etc. À chaque fois, j'y crois très fort en me disant il faut que ça aille plus loin, il faut que ça aille encore plus loin, il faut qu'on s'énerve encore plus. Mais on se mange une répression pas possible. Qui vaccine tout le monde, et ce que je comprends, hein, moi-même, j'ai de plus en plus peur d'aller en manif, j'y vais de moins en moins, et du coup, je réfléchis à d'autres moyens d'action que la manifestation, parce que je pense qu'il faut, là, il faut qu'on rentre, c'est plus par la porte, c'est par les fenêtres, quoi, là, il faut qu'on aille récupérer ce qu'on nous doit, quoi. Mais en face, on a des gens qui sont prêts à mettre du coup des millions d'euros de budget pour armer nos flics un peu mieux, pour pouvoir un peu mieux nous réprimer, quoi. Donc c'est un peu toute seule là, moi je sais que je n'ai pas la solution, ça vient forcément du collectif et ça vient forcément d'un truc transpartisan, mais ça va même au-delà des partis. Moi j'ai jamais été partisane, il faut qu'on arrive à faire des alliances un peu inattendues, quoi.
De toute façon, c'est clair, il faut pas que ce soit
qu'ils ont intérêt à nous diviser pour pouvoir mieux régner, hein. C'est sûr que c'est plus facile
évidemment
De régner sur un peuple où la moitié des gens sont racistes et l'autre moitié racisés, c'est sûr que c'est plus facile que si on avait une France unie et un peuple du coup qui est raccord sur ses objectifs. Donc voilà, moi, ce que je fais moi, c'est lutter contre les discriminations pour essayer d'avoir un peuple un petit peu plus uni. Et je vois que toutes les personnes qui font ça, on a un effet, puisque même si la politique part dans le mauvais sens, n'empêche que les jeunes sont dans une autre dynamique par rapport à nos générations. Voilà, j'ai pas envie de mettre toute la responsabilité sur les épaules des jeunes, mais quand même, je crois fort en eux.
Ouais, c'est sûr. Mais en plus, on le voit, enfin, moi, je m'en rends compte que les jeunes ont... En tout cas, celles et ceux que je croise, hein, pas tous évidemment, mais quand même une bonne partie, ont une sensibilité au commun, c'est-à-dire à la société, au vivre ensemble, qui dépasse largement celle de nos aînés. Alors c'est vrai que leur engagement politique, disons, ne se traduit pas toujours dans les urnes, mais en fait, on comprend en fait pourquoi et ça n'empêche pas qu'ils et elles ont des comportements, des engagements politiques très très forts.
Mais je pense que si jamais on doit être sauvé, c'est l'écologie qui nous sauvera, parce que l'écologie est vraiment le combat à l'heure actuelle qui peut réunir toutes les luttes et qui peut créer une réelle convergence, en fait. Et ça, je pense que les jeunes l'ont compris du coup plus vite que nos générations. Et du coup, je pense que ça peut donner des choses très intéressantes. Moi, j'observe vachement tout ce qui est les soulèvements de la terre, etc. Parce qu'en plus, ils sont très créatifs en termes de moyens de lutte. Je trouve qu'il y a un renouveau du coup qui est extraordinaire et hyper inspirant. Et je pense que ça viendra de là. En tout cas, notre salut, s'il doit arriver, viendra des luttes écologistes et qui du coup ont intégré les luttes féministes, antiracistes, anticapitalistes, etc. Je suis certaine que ça viendra de là, quoi.
Oui, c'est vrai qu'on peut avoir un bon espoir aussi de ce côté-là, ça c'est clair. Je voulais revenir rapidement sur Mauvaise Compagnie, parce que oui, je trouve que c'est un modèle intéressant. Si tu veux bien nous décrire un peu le travail que tu fais avec Mauvaise Compagnie et comment tu aides aussi des associations grâce à ce travail, s'il te plaît.
En fait, moi, je suis graphiste. C'est ça mon vrai métier à la base. Je suis pas féministe professionnelle. et donc, en fait, à force d'être insultée sur Mauvaise Compagnie, sur Paytashneck pendant des années, j'avais un peu fait des captures écran des insultes les plus originales ou les plus récurrentes que je recevais. Parfois, il faut le dire, il y en a qui sont très créatives. Et puis, en fait, un jour, j'ai demandé à ma mère pour Noël un kit de linogravure parce que j'avais envie de m'initier à cette technique. La première que j'ai faite, c'était une affiche avec écrit « Salope en colère ». Et ça a beaucoup fait rire mes copines et qui du coup m'ont demandé d'en faire plus. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, en fait, ça peut être thérapeutique pour moi, du coup, de transformer ces mots en objets de fierté et les retourner et faire en sorte qu'en fait, on ne puisse plus m'insulter, puisqu'à chaque fois, je me marre maintenant quand on m'insulte, si tant est que l'insulte soit originale. Et donc voilà, donc
j'en ai plein. S'il vous plaît, faites un effort.
Oui, voilà, c'est maintenant vraiment quand on me sort une insulte que j'ai déjà reçue 1000 fois, je dis écoute, j'ai déjà fait une affiche et un porte-clés, etc. J'essaie de varier un peu les plaisirs, merci. Et donc voilà, à chaque fois que j'ai lancé du coup une boutique, parce que bah, y a plein de monde qui voulait les mêmes, et bon, je pouvais clairement pas le faire gratuitement parce que je ne suis pas une fondation non plus, j'en ai pas les moyens. Et du coup, bah, il me semblait logique de reverser à chaque fois une partie du prix de vente à une asso, particulièrement parce que je me sentais, j'ai lancé Mauvaise Compagnie un peu avant d'arrêter Paytashneck, il me semble, mais je sentais que ça allait prendre fin. Donc, je me disais, bon, bah, ça va être ma nouvelle façon de militer, plus safe pour moi, mais du coup, de filer un coup de main financier, puisque l'argent, ça reste quand même le nerf de la guerre, hein, et du coup, pouvoir contribuer, en tout cas, à financer nos luttes, et particulièrement sur des collectifs que je savais un peu précaires et en grand besoin de financement. Bon, je ne vais pas prétendre que je reverse des milliers d'euros non plus, ce n'est pas le cas, hein, je ne suis pas Amazon ou H&M. Mais je sais en tout cas que chaque coup de pouce est important, et du coup voilà, j'aide notamment le collectif féministe contre le cyberharcèlement, qui sont des amis, qui n'ont pas des subventions, etc. La Lab aussi, qui sont pareil des amis, mais aussi des sur d'autres luttes comme SOS Méditerranée par exemple, qui a beau être une asso qui est plus grosse que les collectifs que je soutiens, a toujours besoin d'aide constamment et fait un travail absolument inouï et indispensable. Donc voilà, moi c'est ma façon de militer à l'heure actuelle pour me protéger, c'est de m'amuser des mots de nos ennemis pour les retourner complètement, les vider de leur sens, nous créer des objets de reconnaissance aussi, parce que c'est toujours marrant de croiser quelqu'un qui a un tote bag féministe de merde, on sait qu'on va pouvoir lancer une discussion avec la personne. et puis voilà, au passage, verser des sous aux copains et aux copines qui sont toujours dans la bagarre, quoi.
Mais justement, pour le tote bag féministe de merde que j'ai, une des premières fois où je l'ai porté dans la rue, ça devait être c'était pas l'été dernier, c'était l'été d'avant, je crois. Ouais. Et il y a une meuf qui est venue me voir et qui était vraiment énervée. Ouais. Et qui m'a dit, mais c'est quoi ce tote bag, c'est pourquoi tu dis féministe, pourquoi il y a écrit féministe de merde et tout. Et j'ai dû
lui expliquer. Il y a le cœur autour.
Ouais, en plus, j'ai pas pensé à lui dire. Mais du coup, je lui explique, je dis non, mais c'est une façon de se réapproprier, en fait, justement, et de retourner net, en quelque sorte. Et du coup, après, ça va. Mais sur le coup, j'étais un peu surprise, tu sais, elle est venue me voir, genre, bah, trop vénère.
Ouais, ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé que quelqu'un vienne me clasher en pensant que j'étais anti-féministe. Et j'ai
mais là, dit, c'était le cas aussi, tu vois.
Je suis féministe de merde et je suis très fière de l'être, justement, je l'affiche, quoi.
Ouais, c'est assez marrant, mais du coup, ça ouvre la discussion, effectivement. Ouais. Ça, c'est sûr que ça laisse pas insensible, hein, en général.
Ah non, en général, ça crée des réactions, ouais. Pour ça, je les porte de moins en moins moi-même, parce que ça m'a fatiguée d'avoir des cheer-up un peu, des nouvelles copines, machin, soit d'avoir des réactions de gens qui comprennent pas le second degré, et beaucoup d'hommes, d'ailleurs, quand j'avais le pins, qui me disaient « Oh là là, j'adore votre pins !» Je disais « Non, vous n'avez pas compris le propos, c'est sûr et certain !»
Alors assieds-toi, on va discuter.
En général, je m'enfuis dans ces cas-là, je fuis ce genre de discussion, mais ouais, ça peut prêter à confusion, mais en tout cas, ça laisse jamais indifférent, exactement.
Non, c'est super chouette, puis en plus, visuellement, c'est canon, donc n'hésitez pas à celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez des petits cadeaux à faire, non seulement vous faites plaisir à Anaïs et vous contribuer à valoriser son travail. En plus de ça, vous pouvez soutenir les associations à travers Mauvaise Compagnie. Donc, vraiment cool. Merci Anaïs. Est-ce que voudrais-tu rajouter quelque chose pour conclure cet échange ?
Ben, je ne vois pas, là, comme ça. Mais merci en tout cas de m'avoir invité, de m'avoir fait sortir de ma tanière. Et c'était un plaisir. J'ai passé un bon moment.
Ah, c'est cool, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à celles et ceux qui nous écoutent. En plus de vous faire un petit cadeau sur Mauvaise Compagnie, vous pouvez aussi soutenir Popol, un média 100% indépendant qui ne vit que grâce à vos soutiens. Voilà, Popol, je vous le rappelle, est un service de presse en ligne officiel, et donc du coup vous pouvez faire des dons défiscalisés. Merci, à bientôt.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.